Chapitre 53. Christophe gratta religieusement l'allumette. Il l'avait choisie longue, de celle dont on se sert pour allumer un cierge. Il la tint un instant devant ses yeux. La flamme fragile vacilla, trembla, se recroquevilla un instant pour n'être plus qu'un point rouge incandescent, avant de s'élever d'un coup, plus fier que jamais. Christophe l'admira droite entre ses 10 doigts, comme on fixe la lumière le temps d'une prière. La tablette tactile vibrait dans sa poche. Amos était resté en retrait avec la gamine, il devait multiplier les messages, mais il s'en fichait. Il n'allait pas laisser les atermoiements de son petit frère gâcher la solennité de l'instant. Amos avait-il oublié ? Leur réveil en pleine nuit, ils avaient 12 et 11 ans. La chaleur soudaine qui envahit leur chambre, leur lit. La porte qui s'ouvre et la torche humaine qui se précipite sur eux. Ils ont à peine le temps de reconnaître leur mère, qui les pousse, qui les brûle, et ils hurlent, qui se jettent dans le brasier, qui les sauve, qui se sacrifie, qui meurt pour qu'ils vivent. Et la douleur insupportable d'un visage rongé par les braises. Et la terreur, quand le médecin boucher de l'hôpital socialiste de Pilsen l'a opéré, en urgence, à peine anesthésié. Et l'horreur quand il a découvert ce monstre dans le miroir, dans un monde glacé de silence, ce monstre qui le poursuivrait matin après matin, jusque dans le regard de dégoût des passants qu'il croisait, jusque dans le regard obscène des filles qu'il payait, jusque dans le regard sévère de son père, pour qui il n'était plus qu'un chien dressé, dressé pour tuer. Amos n'avait jamais croisé ce monstre du miroir. Amos ignorait ces voyeurs vicieux, cette charité puante, cette pitié infamante. Christophe avait dû les affronter pour deux. Il attendit que l'allumette soit presque entièrement consumée, qu'elle lui brûle les doigts pour les ouvrir. La flamme, tel un papillon de feu, tomba. Aussitôt, le souffle de l'incendie se propagea. Les litres d'essence s'enflammèrent dans la même seconde, une nuée ardente qui traversa le plancher vermoulu. Un tiers des planches s'effondrèrent. Eléa et Nanès eurent juste le temps de se reculer vers le rayoc. Déjà les costumes, les planches, les cartons, les jambes et les bras de bois, les décors et les crânes de papier prenaient feu. Le wagon atelier n'était plus qu'un brasier. Les flammes montaient de partout, s'accrochaient aux cloisons, léchaient le toit, interdisant toute tentative de fuite par la porte verrouillée. Les 3/4 du wagon furent dévorés en quelques instants. Les 3 femmes n'avaient plus la force que de se recroqueviller dans l'unique coin encore épargné, mais leurs poumons semblaient déjà remplis d'une fumée mortelle, leur peau semblait fondre à la chaleur insoutenable. Ce n'était plus qu'une question de secondes avant qu'elles soient toutes à leur tour, après les marionnettes tchèques, les marottes africaines et les karakouris japonaises, transformées en poupées de cendre. « Lola !» eut la force de crier Vicky, en serrant Casper contre son cœur. Sa fille lui avait confié son pantin. Son papa ne viendrait jamais le réparer. « Je suis désolée. » répétait Nanès. « Je suis tellement désolée !» Elle hésita à tout abréger, à avancer d'un pas et laisser les flammes la happer. Vicky la retint dans un ultime mouvement désespéré. « Pierre !» hurla Eléa en tambourinant à la porte. « Tu peux pas me laisser mourir comme ça !»« Adieu, Eléa, » murmura Brain. « Au-dessus de 100 degrés, je ne suis plus qu'une bouillie liquéfiée. »«
Pierre !»
hurla plus fort Eléa.
« Pierre, j'ai besoin de toi !»
Alors Pierre apparut, et Hans surgit à ses côtés. Les 2 hommes venaient de faire exploser la porte de l'atelier en conjuguant la force de leurs épaules. Ils lancèrent des couvertures sur les flammes pour se frayer un éphémère chemin, et sans la moindre hésitation, entrèrent dans le wagon. « Venez ! Venez !»«
Hans !» murmura Vicky. « C'est bien toi !»
Elle reconnut ses yeux gris quand il la regarda, sa force brute quand il l'attrapa pour l'extirper d'une poussée déterminée hors du brasier.
C'était lui.
« Je suis là, Eléa !» Pierre s'était lui aussi approché, dansant entre les flammes. Il souleva Eléa telle une brindille soufflée d'un âtre et la jeta loin du foyer. Elle eut l'impression soudaine de s'envoler, de traverser le soleil, avant d'atterrir allongée dans l'herbe boueuse de la clairière, aux côtés de Vicky. Leurs 2 sauveurs étaient déjà repartis et ensemble tiraient Nanès hors de l'incendie, quelques secondes avant que le toit du wagon atelier ne s'effondre dans une explosion d'étincelles. Elle pleurait, elle riait. Hans embrassait Vicky, encore sonnée, visage et sourcils noircis. Pierre embrassait Eléa, plaquait contre son torse son corps menu, sa peau nue et rougie sous les lambeaux de tissu calciné. Puis Pierre et Hans se retournèrent vers Agnès, assise dans une boue de cendres et de suie, recrachant la fumée inhalée à en déchirer ses poumons. Vicky reprenait ses esprits, cherchait Lola, jetait des regards désespérés vers l'orée de la forêt. Eléa tremblait toujours, s'accrochant à Pierre comme à une bouée. « Putain, » fit Brain, « là va falloir m'expliquer. »